Le journal Camille Manière, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quelle justice pour les djihadistes français arrêtés au Kurdistan syrien. Si les conditions sont réunies, ils devront être jugés là-bas. C'est ce qu'affirmait ce matin le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Et voilà qui pose des questions aussi bien juridiques que diplomatiques. Nous les évoquerons ces questions en début de journal avec Florence Turm et avec notre invité, le numéro 2 du Quai d'Orsay, secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. C'est peu dire qu'il ne fait plus rêver le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste dans l'Obs. Ce matin, on apprend que Najat Vallaud-Belkacem renonce à prendre la tête du parti moribond. Au grand dam, on le verra, de tous ceux qui l'auraient bien vu y aller à leur place. La monnaie est virtuelle, mais son impact sur l'environnement est lui bien réel. Le bitcoin dans le collimateur des écologistes, et ce alors qu'un gouverneur de la Banque Centrale Européenne appelait hier à réguler et à taxer la crypto-monnaie. Et puis nous consacrerons bien sûr une bonne partie de ce journal à ses disparitions en série dans le monde de la littérature. Série noire avec la mort de l'éditeur Bernard de Fallois qui avait édité Proust, Simenon et Pagnol entre autres. Et puis la mort aussi de son confrère Paul Tchaïkovski Laurence, qui avait donné ses initiales à la maison POL. Le décès enfin en Israël de l'écrivain juif Aaron Appelfeld, survivant de la Shoah et décédé donc la nuit dernière à l'âge de 85 ans. Et puis la deuxième partie de la grande table à 12h55, Olivia.
Le retour au collectif à travers la notion des communs, on va en parler avec nos deux invités, la juriste Judith Rochefeld et le philosophe Pierre Dardot à partir de 12h55.
Quel sort judiciaire donc pour ces dizaines de djihadistes français détenus par les combattants du Kurdistan syrien? On a beaucoup parlé ces derniers jours des femmes de Daesh, ressortissantes françaises arrêtées, avec Émilie Koenig, 33 ans, considérée comme l'une des plus actives recruteuses du groupe État islamique. Par la voix de son avocate française, la mère de famille demande à être rapatriée et jugée en France, où se trouvent ses trois enfants. Elle a reçu ce matin une réponse indirecte du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, c'était sur BFM TV.
La question de savoir si elles doivent être jugées en France, c'est surtout la question de savoir si aujourd'hui, dans la partie kurde de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, il y a aujourd'hui des institutions judiciaires qui sont à même, eh bien, d'avoir un jugement qui soit respectueux des droits de la défense. Si il y a des institutions judiciaires qui sont aujourd'hui en capacité d'assurer un procès équitable avec des droits de la défense assurés, elles seront jugées là-bas.
Benjamin Griveaux, donc avec Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV ce matin. Bonjour Florence Turm.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste justice à la rédaction de France Culture. Alors beaucoup de conditionnels dans les propos du porte-parole du gouvernement, mais ce souhait tout de même que les djihadistes françaises soient jugées au Kurdistan syrien, on a l'impression qu'il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, Benjamin Griveaux.
Oui, tout d'abord parce que face au terrorisme djihadiste, la France et les autres pays d'ailleurs sont confrontés à un phénomène d'ampleur inédite. Depuis toujours, le terrorisme pose des questions de compétence pénale internationale que l'on peut d'ailleurs scindé en deux, une compétence dite active. Les Français ayant commis des crimes, même à l'étranger, peuvent être jugés en France, mais aussi une compétence territoriale, une personne jugée sur les lieux de son crime, compétence territoriale que le gouvernement français semble vouloir activer aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans le cas par cas, récemment évoqué par Emmanuel Macron. Henri Labaille, professeur de droit international à l'université de Pau et des Pays de la Dour.
Le problème posé par les djihadistes est tout à fait nouveau, dans la mesure où ces crimes ont été des crimes de grande ampleur, commis à l'étranger, où vraisemblablement l'essentiel des victimes se situe à l'étranger, en Syrie, et plus précisément au Kurdistan. Donc la compétence territoriale de la Syrie paraît difficilement discutable. Cela étant, elles sont citoyennes françaises, quels que soient leurs crimes éventuels, et le gouvernement leur doit protection. Donc c'est la réalité du système judiciaire kurde et syrien, plus exactement, qui va être en cause pour voir ce qui va se passer.
Et c'est bien la question qui se pose désormais. Elle s'était posée déjà récemment pour une femme arrêtée en Irak et dont trois des enfants ont été rapatriés en France. En l'occurrence, le gouvernement a choisi de respecter la souveraineté irakienne, même si les avocats soulignent l'importance du respect d'un procès équitable et demandent des garanties de non-application de la peine de mort. Mais au Kurdistan irakien, et c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui le disait lui-même, il n'y a pas d'autorité constituée, d'où l'incompréhension de Marie Dauzé, avocate qui représente l'une des femmes détenues dans ces camps.
Les informations judiciaires sont ouvertes en France. Les mandats d'arrêt sont existants en France. Les associations de malfaiteurs commencent en France. Donc territorialement, la France est compétente, mais surtout, le Kurdistan syrien n'existe pas en soi. Les Kurdes, lorsqu'ils vous disent « on peut tout à fait les juger », il n'existe pas actuellement d'institution judiciaire du Kurdistan syrien. Donc je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut considérer que ces femmes vont pouvoir être jugées dans un État qui n'existe pas. Je crois que le gouvernement a peur, il a peur de la réaction populaire à ce type de rapatriement et qu'il est en train de botter en touche. En tout état de cause, il n'y a aucune position claire et nette de la part du gouvernement actuellement. C'est incompréhensible.
En tout cas, on le voit bien, le sujet n'est pas seulement un sujet judiciaire, il regroupe largement les champs diplomatiques et politiques. La question où juger les terroristes n'est-elle pas en train de se transformer en « veut-on vraiment les juger en France ?» En octobre dernier, la ministre des Armées, Florence Parly, indiquait qu'il fallait neutraliser un maximum de djihadistes à Raqqa et que s'ils étaient tués dans les combats, ce serait tant mieux.
Florence Thurme, merci. Vous nous dites question diplomatique également. Ça tombe bien, nous avons en studio avec nous notre invité qui est Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour.
Bonjour.
Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, numéro 2 donc, du Quai d'Orsay. Ces déclarations de votre porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, ce matin, est-ce que c'est une, ça induit une reconnaissance de fait des autorités kurdes syriennes, reconnaissance judiciaire en tout cas ?
Et on voit à travers les propos de Benjamin Griveaux et puis les témoignages que vous avez recueillis, qu'on a entendus, que la question elle est éminemment complexe et qu'il n'y a pas une réponse qui soit oui ou non de façon définitive. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de paramètres à prendre en ligne de compte. Ce qui est sûr, c'est que les personnes ayant commis des crimes doivent répondre de ces crimes. Ça, c'est sûr.
Mais alors, quelles autorités pour juger,
en même temps, il faut que ces personnes puissent avoir accès à un système de défense. Voilà. Ça, c'est naturellement la base. Donc maintenant, vous voyez, par exemple, on évoquait le cas d'une personne en Irak. Bon, en Irak, il y a des institutions judiciaires qui fonctionnent à nouveau. Eh bien, dans ces cas-là, ça peut se faire là-bas.
Là, on est sur la Syrie, le Kurdistan syrien, pas d'autorité constituée ou reconnue, en tout cas, de la part de la France.
Oui, c'est pour ça que, encore une fois, la situation est complexe et je ne vous apporterai pas de réponse définitive aujourd'hui en plateau. Je veux juste rappeler quand même qu'il est un peu curieux de voir que cette personne qui appelait, je le rappelle, à frapper des femmes de militaires français sur le sol national se rappelle tout d'un coup de ce qui est sa patrie, manifestement, et maintenant trouve que le système qu'elle appelait à attaquer et à mettre à bas a des vertus.
Bon. Alors justement, on entendait l'avocate Marie Dosé qui dit que le gouvernement a peur du retour de ses ressortissantes français qui ont combattu pour Daesh. Il y a cette peur, vous qui êtes au gouvernement ?
Non mais vous savez, le gouvernement n'a pas à être tétanisé, c'est pas l'état d'esprit. On est un gouvernement actif qui affronte toutes les problématiques, tous les enjeux. Et donc, on va affronter tout cela naturellement. Voilà, donc maintenant, question complexe, donc réponse complexe.
Voilà, merci Jean-Baptiste Lemoyne. On va vous retrouver plus longuement dans la séquence interview de cette édition. On va parler d'Iran, d'Arabie Saoudite, mais aussi d'Europe. Question complexe également. La Syrie dans l'actualité, c'est aussi la situation humanitaire toujours plus dramatique dans l'enclave rebelle de la Route. Ghouta orientale, c'est en banlieue de Damas, un territoire assiégé par les forces du régime depuis 2013, une population affamée et ces bombardements russes qui se poursuivent. Ceux de la seule journée d'hier ont tué au moins 23 civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée russe, de son côté, reconnaît avoir perdu au moins 7 avions dans le bombardement d'une de ses bases aériennes par des rebelles. C'était la nuit de la Saint-Sylvestre, selon les médias russes qui y voient les pertes matérielles les plus lourdes pour l'armée de la Russie en Syrie. Ils étaient nombreux au Parti Socialiste français à rêver à voix haute d'une femme jeune pour prendre la tête du Parti Socialiste et incarner le renouveau de ce parti que l'on dit moribond. Ce ne sera pas cette fois Najat Vallaud-Belkacem. L'ex-ministre de l'Éducation nationale renonce à briguer la succession de Jean-Christophe Cambadélis. Elle le dit dans une interview à l'Obs qui paraît ce jeudi. Elle ne cédera pas, dit-elle, à l'amicale pression de ses amis socialistes. Un renoncement révélateur s'il en était besoin d'une certaine délicatesse. Essence du PS, Sophie Delpont.
Quand même les cadres d'un parti n'ont pas envie d'en prendre la tête, le message est sans appel. Le non merci de Najat Vallaud-Belkacem, qui avait pourtant de très bonnes chances de l'emporter, est effectivement un nouveau signe de l'état catastrophique dans lequel l'appareil socialiste se trouve aujourd'hui. Sans toit depuis la vente du siège historique de Solferino et marqué par quelques désertions en direction des marcheurs et des insoumis de la part de cadres et de militants. Le poste de premier secrétaire du PS est très ingrat et le groupe des cadras, le groupe informel du PS où figure notamment Olivier Faure, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, se retrouve donc aujourd'hui sans candidat. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, chantait Jacques Brel. C'est d'ailleurs vers la littérature que se tourne aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem, qui devrait donc devenir directrice chez Fayard. Sur les débris du grand parti de gouvernement pourrait progressivement être assemblé patiemment pour reconstruire les prochaines pierres de cet édifice, mais la tâche sera rude pour celui qui devra s'en charger. celui et non pas celle, puisqu'aujourd'hui, il ne reste que des hommes plutôt proches de la cinquantaine, potentiellement en lice pour ce poste. Seul le député Luc Carvounas, ancien valsiste, s'est officiellement déclaré candidat. Luc Carvounas qui avait violemment condamné le manque de loyauté de Manuel Valls au moment du lâchage de Benoît Hamon à l'issue de la primaire. Emmanuel Maurel, le député européen socialiste, représentant l'aile gauche du PS, veut se déclarer et fait en ce moment le tour des fédérations pour prendre le pouls des militants. Quand l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, favori des Hollandais, pourrait lui aussi annoncer sa candidature. Des hommes, purs produits de l'appareil, qui seraient donc chargés de le renouveler.
Sophie Delpont, merci à vous. On parle à présent, on reparle à présent du Bitcoin, cette monnaie virtuelle dont le cours mondial a flambé ces derniers mois et ça a alerté les milieux de la finance traditionnelle, fait craindre une nouvelle bulle spéculative. Les critiques justement contre l'emballement autour du Bitcoin se font désormais entendre jusqu'au sein de nos institutions financières. À la Banque Centrale Européenne, l'Autrichien Ewald Nowotny plaidait hier pour une régulation de la crypto-monnaie pour qu'elle soit assujettie à une TVA. Bonjour Benjamin Delisle.
Bonjour.
Au-delà de la BCE, le Bitcoin est remis en cause aussi par les organisations écologistes. Elles l'accusent d'avoir un impact environnemental particulièrement négatif. Expliquez-nous ça.
Eh bien, le Bitcoin, vous l'avez dit, est une monnaie virtuelle. Et donc, elle n'a pas d'existence physique. Elle n'existe que sous forme numérique grâce à des milliers d'ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces ordinateurs surpuissants vérifient toutes les transactions mondiales de Bitcoin en direct via des calculs mathématiques complexes. C'est ce qu'on appelle le minage. Et avec la flambée du cours de cette crypto-monnaie, ces dernières semaines, les vérifications sont de plus en plus nombreuses et les calculs de plus en plus complexes. Donc, la quantité d'électricité nécessaire pour faire tourner ces machines est considérable et elle augmente au même rythme que la valeur du Bitcoin. Pour vous donner un ordre d'idée, le site internet Digiconomist, dédié aux crypto-monnaies, donne une estimation de la consommation énergétique annuelle du Bitcoin actualisée régulièrement. Aujourd'hui, elle est d'environ 37 TWh, soit l'équivalent à peu de choses près de la consommation électrique annuelle du Qatar. Chaque transaction et la vérification qui s'ensuit consomment autant que 11 ménages américains en une seule journée. Et il y a plus de 300 000 transactions par jour. Le plus inquiétant, c'est que la majorité des ordinateurs chargés de ces vérifications se trouvent en Chine, car l'électricité y est moins chère. Et 60% de l'électricité chinoise est issue de la consommation de charbon, dont l'empreinte carbone est désastreuse. Donc, le Bitcoin a beau être une monnaie virtuelle, son impact écologique, lui, est bien réel.
Benjamin Delisle, merci. Midi 44 sur France Culture, la suite de ce journal avec cet hommage à deux figures tutélaires de l'édition française qui viennent de disparaître coup sur coup. Hier et ce matin, nous apprenions la mort mardi des éditeurs Bernard de Fallois, nous allons y revenir dans quelques minutes, et de Paul Otchakowski, Laurence, P.O.L., des initiatives inscrites en bleu sur les couvertures blanches de la maison d'édition qu'il avait créée à son image et à son nom. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
P.O.L., donc salué comme le découvreur de tellement de talents par la ministre de la Culture et elle-même éditrice. Françoise Nyssen, il restera comme une figure marquante de la littérature française.
Oui, particulièrement dans le monde de l'édition qu'il avait notamment couronné par un prix Goncourt attribué à Atik Raimi en 2008. Sa maison d'édition POL, il l'a fondée en 1983 avec ses initiales et un logo qui fait référence à Georges Perec, qu'il avait édité auparavant chez Hachette et qui venait de disparaître. En 85, il publie La Douleur de Duras, mais très vite il se distingue parce que c'est un défricheur de talents. Marie Darrieussecq, Martin Winkler, Emmanuel Carrère, mais aussi Camille Laurence, Jean Rollin ou Christophe Tarkos, entre autres, lui resteront toujours fidèles parce que c'était un homme et un éditeur d'une grande intégrité et qui, comme Christian Bourgois, qui lui avait appris son métier, n'a jamais perdu le goût des phrases. C'est ce dont se souvient Dominique Bourgois, directrice des éditions Bourgois, qui le connaît depuis 1971.
Il n'y a pas de nécessité de publier des livres. Aucune. On n'est que dans l'offre et pas dans la demande. Et cette offre, Paul, il l'accompagnait de manière magnifique. Et quand il dit qu'il partait une fois par mois ou, je sais plus, lire 40 manuscrits, mais j'ai une admiration sans borne pour le fait qu'il puisse le faire. Ça veut dire qu'il n'avait pas perdu le goût, ce goût des années 1971 quand je l'ai rencontré, mais il était pérenne. Il avait encore le goût d'aller dénicher des textes. Et les auteurs qui lui ont envoyé, ils savaient qu'ils allaient avoir cet accueil-là. Si vous regardez la magnifique liste d'auteurs français qu'il a publié, et pas seulement toujours les références à Perec Duras, parce que je trouve que c'est pas faire justice à tous ceux qu'il a publiés après, qui sont formidables, et ça il l'avait d'instinct, je pense.
De ces auteurs qu'il mettait sans cesse au cœur de son travail, il disait qu'il lui avait sauvé la vie. Et il avait raconté pourquoi dans deux films, l'un, Sablé sur Sarthe, qui révèle l'abus sexuel qu'il avait subi enfant, et l'autre, Éditeur, sorti cet automne, qui raconte son métier et revient avec humour, notamment sur les déboires de sa maison d'édition POL, condamnée en justice pour diffamation à la fin des années 90, pour avoir publié le roman de Mathieu Lindon, Le procès de Jean-Marie Le Pen, une condamnation qui lui avait alors valu le soutien de très nombreux auteurs, mais aussi de très nombreux éditeurs français.
Cécile de Kervas-Douai, et ce même de janvier, donc à quelques milliers de kilomètres de la Guadeloupe, où Paul Ochakowski-Laurence est mort dans un accident de voiture, et bien un autre grand éditeur français nous quittait, Bernard de Fallois, donc âgé de 91 ans, avait lui aussi donné son nom à une maison d'édition qui comptait à son catalogue des monuments littéraires tels que Marcel Pagnol, Georges Simenon, Marcel Proust, Raymond Aron ou encore Jacqueline de Romilly. Bernard de Fallois avait débuté sa carrière chez Hachette où il dirigea un temps la collection du Livre de Poche, créée, elle, en 1953. C'était l'illustration du combat mené toute sa vie pour faire rayonner l'œuvre de ses auteurs auprès du plus grand nombre de lecteurs, une démocratisation de la littérature qu'il défendait encore en 1977 au micro de Jacques Chancel, c'était dans Radioscopie.
C'est le plus grand phénomène qui se soit passé dans l'édition.
C'était nécessaire.
Gutenberg Et contrairement à ce qu'ont dit un certain nombre de gens qui mettaient en doute la capacité pour le Livre de Poche de faire connaître le livre à un plus grand public, vous savez que beaucoup de gens ont pensé que par le Livre de Poche on ferait lire plus aux mêmes gens et non pas plus de livres à plus de gens. Eh bien, toutes les expériences qui ont été faites, toutes les enquêtes, toutes les statistiques ont démontré au contraire que la lecture dans les années, dans les 20 années de l'existence des collections de poche, a été multipliée presque par deux en France, et qu'après avoir été les pays où on lisait le moins, puisqu'en France, une personne sur trois n'ouvrait jamais un livre, nous sommes aujourd'hui un des pays où on lit le plus.
Une page qui se tourne enfin dans la littérature mondiale, c'est d'Israël que nous est venue la troisième annonce de décès du jour, et c'est celle d'Ar Aaron Appelfeld, natif du Yiddishland ukrainien. Il avait survécu à l'Holocauste dans son enfance, mais il refusait, au long de sa quarantaine d'ouvrages imprégnés de son expérience, d'être considéré comme un écrivain de la Shoah. Son autobiographie en 2004 lui avait valu le prix Médicis étranger. Marie Semelin, en Israël, nous fait son portrait.
Il se définissait lui-même non pas comme un écrivain israélien, mais plutôt comme un juif qui écrit en Israël. Aaron Appelfeld, c'est d'abord ce petit garçon né il y a 85 ans dans une ville roumaine, aujourd'hui en Ukraine, dont la mère est assassinée par les nazis et qui a, disons, fui le camp où il a été déporté avec son père pour survivre dans la forêt. Puis en 1946, c'est l'immigration en Palestine, le déracinement, mais aussi la construction d'une nation. Bercé par le yiddish de ses grands-parents, par la langue allemande de ses parents, c'est en hébreu qu'il va écrire les mots du pays nouveau, à qui dira-t-il, à la sueur de son front et avec laquelle il racontera la vie des Juifs d'Europe et la mémoire de la Shoah, même s'il refusait d'être considéré comme un écrivain de la mort, car, affirmait-il, l'écriture suppose que vous soyez vivant. Dans son œuvre riche de plus de 40 ouvrages, fondamentalement juive, fondamentalement humaniste, c'est l'esprit de l'homme qui est exploré, traversé par cette enfance qu'il a mis du temps à raconter, mais qui est au cœur de son œuvre. En Israël, les hommages se multiplient. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a fait part de son immense tristesse. La ministre de la Culture, Miri Regev, a elle salué sa mémoire et des récits de vie entiers qui resteront dans notre souvenir collectif et personnel.
La correspondante de France Culture en Israël, Marie Semelin. À midi passé de 50 minutes, la séquence interview de cette édition avec donc notre invité Jean-Baptiste Lemoine. Je le rappelle, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Vous êtes donc numéro 2 dans l'ordre protocolaire du Quai d'Orsay. Avec nous également pour cette séquence interview, Éric Biégala. Bonjour, chef du service Monde de France Culture. Ma première question, Jean-Baptiste Lemoine, sera sur l'Iran et sur le Moyen-Orient en général. Emmanuel Macron, hier à la presse, a dit qu'il tenait à garder le contact avec le président Rouhani, qu'il était pour une position d'équilibre entre, on va dire, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et leur position très belliqueuse. C'est lui qui l'a dit face à l'Iran, et puis également de maintenir le contact avec l'Iran. La situation, s'il n'y avait pas cet équilibre français, on peut éviter en tout cas que les situations s'enveniment plus.
Je crois que c'est une des marques de fabrique de la diplomatie d'Emmanuel Macron. C'est effectivement pouvoir parler à tout le monde, maintenir le dialogue, le contact, et ainsi contribuer à... Voilà. en tous les cas, à éviter trop de déséquilibre. Et on voit qu'on est dans cette région du monde confronté à de nombreux défis. On le voit en Syrie, on le voit naturellement en Irak, on le voit effectivement en Iran et en Turquie. En Iran, la France a toujours dit qu'il était important, au moment où les États-Unis voulaient remettre en cause l'accord de 2015 qui met sous contrôle les activités nucléaires iraniennes, de défendre cet accord. Et dans le même temps, le président de la République a toujours dit, et d'ailleurs il s'en est ouvert au président Rouhani, que nous devions aussi avoir un dialogue sur le balistique et puis tout simplement sur les activités iraniennes dans un certain nombre de théâtres d'opérations.
Mais comment maintenir une position d'équilibre et parler avec les Iraniens quand on va à Riyad pour exfiltrer Saad Hariri, par exemple, dernièrement, ou qu'on vend des rafales à l'Arabie Saoudite? Est-ce que les Iraniens peuvent encore nous voir comme des partenaires possibles et dégagés, disons, de l'Arabie Saoudite?
Je me suis rendu deux fois en Iran ces derniers temps et j'ai bien vu que l'Iran était attentive à ce que la France et les États européens étaient des défenseurs de cet accord de 2015, de cet accord de Vienne. C'est aussi cet accord qui a permis effectivement de desserrer les taux économiques, de faire en sorte que des investissements puissent reprendre, qu'une certaine croissance ait lieu. Et la question qui se pose aujourd'hui, à travers les manifestations qui ont lieu, c'est la répartition de cette croissance, c'est le fait que l'ensemble de la société puisse en profiter ou pas. Et c'est aujourd'hui ça qui est un peu en débat.
Question d'Éric Biegala.
Demain, le président turc Recep Tayyip Erdogan sera à Paris, déjeuner de travail avec le président français. Apparemment, la Turquie et notamment Recep Tayyip Erdogan veulent se rabibocher avec l'Europe. Est-ce qu'il serait temps de recommencer les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui sont gelées en ce moment?
En fait, il faut voir d'où on vient. Pourquoi effectivement il y a ce gel? Parce qu'il y a un certain nombre d'attentes qui ont été exprimées par les États européens en termes d'un certain nombre de libertés fondamentales. De ce point de vue-là, la Turquie, naturellement, a des gestes à poser avant que le dossier puisse... continuer à être évoqué. Et donc du coup, vous savez, là aussi, la France, elle est constante. Le président de la République avait lancé cette invitation dès son premier entretien téléphonique avec le président Erdogan. Il échange régulièrement avec lui parce que la Turquie est aussi un partenaire incontournable sur un certain nombre de crises régionales. Juste avant Noël, il y a eu, vous le savez, la déclaration du président américain sur Jérusalem et le statut de Jérusalem. De ce point de vue-là, la France a réaffirmé son souci que les résolutions de l'ONU soient respectées, qu'une solution soit trouvée uniquement par négociation entre les parties palestiniennes et israéliennes. Et il se trouve que la Turquie, elle aussi, appuie cette position. Donc, en Syrie, nous sommes également, partenaires pour essayer de faire en sorte que le processus de Genève, de l'ONU, puisse déboucher sur une solution politique. Parce que maintenant que l'aspect militaire est en train de s'achever, il faut entrer de plein pied dans cette solution politique. Et donc, la Turquie est un État qui, naturellement, dispose d'un certain nombre de clés aussi.
Et la Turquie nous ramène aussi aux questions européennes. Vous êtes en charge de ces fonctions au Quai d'Orsay.
Nathalie Loiseau, plus exactement.
Nathalie Loiseau également. Emmanuel Macron, également hier, parlait d'un nouveau traité européen qu'il veut mettre en place avec Angela Merkel. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce nouveau traité?
Alors déjà, le président de la République a mis énormément de pistes, de propositions sur la table le 26 septembre lors de son discours de la Sorbonne. Et ce que je constate, moi, dans les conseils de ministres européens auxquels j'assiste, c'est qu'il y a... il est attendu. La France est attendue, justement, pour essayer de refonder cette Europe, dont on voit bien que les citoyens, souvent, se posent des questions. Effectivement, si un certain nombre de consultations populaires ont montré de la défiance vis-à-vis de l'Europe, il nous appartient donc d'être imaginatif, d'être créatif et de faire en sorte qu'elle soit plus efficace. Et donc, c'est tout cela qui va être discuté dans les prochains mois. La Commission européenne, d'ailleurs, elle aussi, a mis sur la table un certain nombre de propositions en décembre. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs très congruentes avec les nôtres. Et donc, je pense qu'en tous les cas, on peut se réjouir que la France soit à l'initiative et que dès lors que ses partenaires, notamment la l'Allemagne aura trouvé eh bien, son système de coalition, eh bien, qu'on puisse avancer avec tous les États européens.
Jean-Baptiste Lemoyne, merci pour être revenu sur tous ces sujets liés à la diplomatie française. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État donc, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, donc numéro 2 du Quai d'Orsay. Merci également à Éric Biegala qui a participé à cette interview avec nous. Côté météo, enfin, la France est sous la pluie sur au moins les trois quarts nord de son territoire. Les vents et précipitations de la tempête Eleanor sévissent toujours sur l'est, de la Lorraine aux Hautes-Alpes. 21 départements sont maintenus en alerte orange par Météo France. Les températures cet après-midi restent très supérieures aux moyennes de saison, comprises entre 11 degrés à Brest et 19 à Perpignan. Merci à Yacine Bouzard qui réalisait cette édition. Vous retrouverez Aurélie Kiefer pour le journal de 18h.